La mondialisation économique expose les entreprises à des défis géopolitiques majeurs avec les tensions interétatiques, les crises internationales ou même les guerres économiques. Les entreprises ont non seulement un impact sur la géopolitique mondiale, mais la géopolitique influence, elle aussi, les activités des entreprises. Ceci n'est pas nouveau. Déjà, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, avec le plan Marshall, aidèrent à relever le pays européen, comprenant, je cite, « la nécessité d'un plan qui accompagnerait la récupération économique de l'Europe et ouvrirait d'importants marchés aux entreprises américaines, tout en préservant le capitalisme et la démocratie ». On voit donc que les États-Unis, qui historiquement avaient en premier lieu pensé à asphyxier l'Allemagne et le Japon pour faire disparaître ces deux puissances, se sont finalement rendus compte de l'aubaine que représentait cette situation géopolitique pour les entreprises états-uniennes. Le géopolitique s'intéresse aujourd'hui au rôle des entreprises dans la géopolitique. Bienvenue et bonne écoute.
On peut donc rapidement constater que les liens entre entreprises et géopolitique sont très étroits. On peut également se remémorer, il y a 2 ans de cela, les différends qu'avait eu la France avec l'Australie lorsque celle-ci avait annulé le contrat de l'entreprise DCNS pour la livraison de sous-marins, où le pays d'Océanie avait préféré se retourner vers les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ainsi, de nos jours, il est clair que les entreprises sont devenues de véritables actrices géopolitiques. Cela s'observe notamment lorsque l'on voit leur attractivité et la volonté des différents chefs d'État à attirer les grandes entreprises dans leur pays, comme l'illustre très bien le président Macron avec l'événement Choose France, un sommet accueillant les grands dirigeants d'entreprises pour leur vendre l'attractivité économique de la France et leur donner envie de s'installer dans le pays. En fait, dit même Sylvie Matly, l'autrice de l'article, aujourd'hui, elles apparaissent en première ligne des acteurs pouvant participer à relever les défis majeurs se profilant, tels que la lutte contre le changement climatique, la meilleure répartition des richesses et la question fiscale, l'accès à la santé ou encore les droits humains et la question démocratique. Ainsi, de fil en aiguille, les entreprises sont de plus en plus interrogées quant à leurs responsabilités. En France, par exemple, la loi Pacte en 2019 demande aux entreprises de prendre en compte des considérations sociales et environnementales dans la définition de leur objet social. Cependant, le respect des critères dits ECG, environnement, social et de gouvernance, dans le cadre de la mondialisation et en ne perdant pas de vue l'objectif premier des entreprises qui est celui de faire du profit, on a des exigences qui peuvent rentrer en contradiction.
Par ailleurs, le rôle ô combien grandissant des entreprises du secteur numérique qui, elles, semblent jouer un rôle d'autant plus prépondérant géopolitiquement parlant. Au travers des réseaux sociaux, on a une plus grande visibilité de phénomènes tels que l'exploitation des Ouïghours en Chine ou encore d'autres qui seraient, sans ces moyens de diffusion, tus ou bien plus dissimulés. On a d'ailleurs, en ce qui concerne plus précisément ces entreprises, une volonté des États, notamment européens, de reprendre du terrain et de contrôler les actions, à titre d'exemple bien sûr, le Règlement général sur la protection des données, RGPD, qui vise en Europe à protéger les utilisateurs, mais également à imposer des limites à ces grandes entreprises. Plus généralement, on a donc une volonté des États à reprendre le contrôle sur des entreprises devenues trop puissantes, mais cela ne semble pas si facile au vu de la puissance économique, mais également d'influence que celle-ci possède. Vous retrouvez toutes les sources de cet élément central en description. En attendant, Antoine, je me tourne vers toi aujourd'hui pour ensemble discuter de la Chine. Hard Power, c'est parti.
La Chine a annoncé le mardi 5 mars un budget militaire en hausse de 7,2% pour 2024, portant alors le budget de la défense à 1666 milliards de yuan, 213 milliards d'euros, soit plus du double des dépenses militaires consenties par la Chine que lorsque Xi Jinping est devenu président en 2013. C'est tout bonnement le deuxième budget militaire mondial, derrière les États-Unis, qui reste quand même loin devant avec une marge relativement importante. Attention toutefois, car en termes de PIB, le pays consacre 1,6% de son PIB à son armée, bien moins que les États-Unis, 3,5%, ou que la Russie, 4,1%, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, vous en avez l'habitude. Cette hausse significative s'inscrit dans un contexte d'abord d'opposition avec la première puissance mondiale, les États-Unis. Certains parlent même de la nouvelle guerre froide, même si depuis la Covid, la Chine semble un peu enrhumée, mais aussi et surtout dans un contexte d'exacerbation des tensions en mer de Chine avec Taïwan, notamment, et puis dans une moindre mesure avec l'Inde, l'autre géant de la région asiatique. Il s'agit donc aujourd'hui d'ouvrir le moteur de cet acteur mondial incontournable afin de voir les étapes de son ascension, ses capacités actuelles et ses défis à venir. Les secrets de la Grande Muraille militaire plongée dans l'Armée populaire de libération, APL, c'est maintenant dans la chronique Hard Power. Bienvenue dans Hard Power, une chronique du géopolitique qui analyse les enjeux de défense et de sécurité à l'international. Antoine vous accompagne au cœur de la géopolitique mondiale avec sérieux et légèreté.
Merci Antoine pour cette introduction. Comme à chaque fois ou presque, est-ce que tu peux revenir sur la dimension historique de cette armée en retraçant les grandes lignes et les grandes dates, s'il te plaît ?
L'histoire de l'armée chinoise remonte à la fondation de la République populaire de Chine en 1949 par le Parti communiste chinois dirigé par Mao Zedong. Depuis lors, l'APL a connu une croissance spectaculaire, devenant aujourd'hui l'une des forces armées les plus puissantes et modernes du monde. Elle fut d'abord fondée sous le nom d'Armée rouge chinoise en 1927, mais après la guerre sino-japonaise, elle prendra alors le nom que nous lui connaissons aujourd'hui. Cette armée est de nos jours composée de plusieurs branches, notamment l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, la force de fusée balistique stratégique et les forces de soutien stratégique. Chacune de ces branches joue un rôle crucial dans le maintien de la sécurité nationale et la projection de la puissance chinoise à l'échelle mondiale.
Je comprends donc que l'armée chinoise a plusieurs branches. Concrètement, de quels moyens dispose-t-elle ?
Tout d'abord, l'armée chinoise dispose d'hommes, et c'est le plus important. Quoique, il faut aussi que ces hommes soient motivés et pleinement engagés. En levant en Ukraine, où d'un côté les Ukrainiens peut-être moins nombreux sont par contre totalement dévoués dans la défense de leur terre, et à l'inverse des Russes en supériorité numérique, mais la plupart sont jeunes, on leur a dit « tu prends ce casque, cette arme, et tu vas te battre ». Bref, revenons à nos moutons, le nombre ne fait pas la force, mais il contribue fortement, très fortement. La Chine a donc à disposition 2 millions de soldats. À cela, il faut rajouter quelques 500 000 réservistes mobilisables à tout instant. Ensuite, elle peut compter sur une gamme variée d'armements conventionnels comprenant des chars, environ 7 000, des aéronefs, environ 3 000, dont 2 000 avions de combat, et puis enfin, environ 800 navires de guerre, dont 3 porte-avions. La Chine fait aussi partie du cercle restreint disposant de la puissance nucléaire, et elle peut ainsi compter, d'après les données de 2023, sur 410 têtes d'ogives, loin derrière les 4500 russes, mais 410 tout de même, quand nous savons qu'une pourrait mettre à mal une bonne partie de l'humanité. Voilà donc un bref petit tour des forces armées chinoises en présence, non exhaustif, mais qui donne simplement une idée de cette puissance.
T'aimes bien me faire peur toutes les semaines, Antoine. Alors, pour continuer, comment l'armée chinoise se modernise-t-elle ? Sur quoi compte-t-elle dans les prochaines années ?
Au cours des dernières décennies, la Chine, il est vrai, a investi massivement dans la modernisation de son arsenal militaire. L'APL dispose désormais de technologies de pointe avec des avancées significatives dans les domaines de la cybernétique, autrement dit de la communication, de l'intelligence artificielle, des drones et de l'espace. Ces développements positionnent la Chine comme un acteur majeur sur la scène mondiale en matière de défense. Cependant, en disant cela, nous ne disons pas grand-chose. La Chine a été confrontée à un problème de taille. Une armée qui, comme on peut le voir en Russie aujourd'hui, commençait à se faire vieillissante, datant de l'époque de Mao, voire même antérieure à cela. Le pouvoir chinois de Xi Jinping, par ses investissements, poursuit donc un objectif. Rendre moderne et compétitive son armée en vue d'un potentiel conflit, nous y reviendrons. Pour ce faire, elle a par exemple mis le pied sur l'accélérateur en matière de missiles balistiques et de croisières, y comprenant des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Cette capacité doit donc venir participer à renforcer la dissuasion stratégique de la Chine. Deux autres domaines, et cela ne devrait pas surprendre les spécialistes de défense ni les auditeurs de cette chronique, que la Chine développe à fond la caisse, la marine et l'armée de l'air. Pour ceux qui n'auraient pas compris, l'évocation Taïwan devrait suffire, je pense. La marine chinoise est en constante expansion, avec un accent particulier sur le développement de porte-avions, de sous-marins, de destroyers et d'autres navires de guerre. Cette expansion renforce la projection de puissance navale de la Chine. La Chine a en outre modernisé sa force aérienne avec des avions de chasse avancés, des avions de transport et des avions de reconnaissance, renforçant ainsi sa capacité à contrôler l'espace aérien. Je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les modernisations, mais elle investit aussi massivement dans les domaines tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les drones et d'autres technologies de pointe pour renforcer ses capacités de guerre électronique et de surveillance. Nous avons tous en tête ici les ballons chinois détruits par l'armée américaine sur ordre de Joe Biden. Pour une fois que l'ordre a été compris, il fait tellement de bourdes. Et puis enfin, l'APL investit aussi dans les systèmes de logistique moderne et des équipements de protection pour ses soldats. Vous l'avez donc compris, la politique de défense chinoise, avec l'accent sur la modernisation, répond à un objectif de défense active et met en valeur la capacité de l'APL à réagir rapidement aux menaces émergentes.
Et justement, je me permets de te couper parce que c'est une parfaite transition. Quels sont les défis qu'elle aura à atteindre ?
Discrète, la Chine l'est. Instigatrice, elle l'est aussi. Xi Jinping a reformé des alliances et si aujourd'hui la Russie tient, elle tient aussi grâce au soutien, pas uniquement militaire, mais aussi militaire de la Chine. Voilà donc le premier défi. Ensuite, vous l'avez compris tout au long de cette chronique, mais le principal défi, objectif même pourrait-on dire, demeure pour la Chine en mer de Chine méridionale. Les revendications territoriales en mer de Chine méridionale ont suscité des préoccupations internationales. La Chine a accumulé sa présence militaire dans cette région, ce qui a entraîné des frictions avec d'autres nations riveraines et des réponses de la part de la communauté internationale. La Chine s'en moque, et nous ne sommes pas à l'abri que cette montée des tensions entre la Chine et Taïwan se transforme en un 24 février 2022 et qu'en se levant, nous apprenions que la Chine est passée à l'acte, engageant une offensive. Le discours de Xi Jinping est sur ce point non ambivalent, mais au contraire très clair. Taïwan deviendra un jour chinoise. Par quels moyens, nous ne savons pas. Les conséquences, elles, nous pouvons les craindre quand nous savons que Taïwan est spécialisé dans les puces informatiques. Ce pays en est même le premier fournisseur au monde. La question de Taïwan reste donc l'un des défis les plus sensibles, la Chine considérant Taïwan comme une province chinoise et a régulièrement exprimé son intention de réunifier l'île avec le continent, si nécessaire par la force. Nous comprenons donc que, de Mao à l'intelligence artificielle, l'armée chinoise a connu une odyssée digne des plus grands moments historiques de ce pays. Vieillissante et de moins en moins compétitive, Xi Jinping a un objectif, un but à atteindre, faire de son pays la première puissance mondiale en 2049 pour les 100 ans de la République populaire de Chine et par conséquent et fatalement de son armée la première au monde. Certes, les États-Unis semblent loin devant, mais la Chine sait constamment se réinventer et nul doute qu'elle va accroître ses investissements et ses efforts dans ce domaine militaire et de la défense. Elle veut montrer que face aux gendarmes du monde, il faudra compter sur elle. Pour preuve, elle est capable de passer à l'action, à Taïwan notamment, et cela enverrait alors un signal fort aux États-Unis, qui soutiennent depuis longues années et massivement ce pays insulaire. Un célèbre proverbe dit « Une armée s'entretient 1000 jours durant et ne s'emploie qu'un moment ». Je ne veux point être pessimiste, vous me connaissez, mais sans arrêt, ouvrir le débat, alors allons-y. L'entraînement de la Chine semble se faire, s'intensifier même. Et depuis lundi 11 mars, et ce jusqu'au vendredi 15 mars, elle mène des opérations conjointes d'entraînement avec l'Iran et la Russie dans le golfe d'Oman, deux alliés au sein des BRICS. Le but recherché est somme toute assez clair, montrer à l'Occident qu'ils ne sont pas seuls dans le monde et que leurs valeurs sont peut-être un peu dépassées. On est donc d'accord pour dire que l'entraînement, l'armée chinoise le fait. Quid désormais de l'emploi de la force. Taïwan ou ailleurs, l'armée chinoise se prépare afin que l'offensive soit fulgurante et discrète, comme l'est aujourd'hui le pouvoir communiste en place à Pékin.
Et d'ailleurs, du 11 au 15 mars, l'OTAN s'entraînait aussi au nord, dans les pays scandinaves, parce qu'il fait froid, comme en Russie. Bon, allez, on va pas aller trop loin. Merci Antoine pour cette chronique, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Aujourd'hui, on parle d'entreprise et de géopolitique, et quand on associe ces deux notions, il y a quelque chose de forcément important, la taxation des entreprises multinationales, qui est fondamentalement un enjeu géopolitique. On a pu le voir avec Bruno Le Maire et la taxation du géant Amazon en 2022 et 2023. Au-delà de l'enjeu économique lié à l'apport des taxes du géant de la livraison, c'est un enjeu de souveraineté pour la France et une volonté de poser une résistance face aux États-Unis hégémoniques économiquement. D'ailleurs, Thierry Breton, le haut commissaire de l'Union européenne, abonde dans le même sens. Les États-Unis sont un partenaire majeur de l'Union européenne, mais cette dernière n'est en rien une subordonnée de la première puissance mondiale. On perçoit un autre enjeu sous-tendu, réussir à unir l'Union européenne pour être ou paraître puissant face aux autres puissances. Le paiement de l'impôt est important depuis que l'État existe. On fait référence ici à Louis XIV qui, déjà le premier, posait une importance majeure quant au lever de l'impôt. Le tracé des frontières a en partie pour origine cet objectif. On peut aller encore plus loin en sciences politiques avec Chartilly qui nous explique que la levée de l'impôt est une condition pour que l'État puisse exister avec quelques raccourcis nécessaires pour le respect du timing de cette émission. Maintenant, je me tourne vers toi pour continuer à discuter de ce sujet passionnant, n'est-ce pas ?
Le 1er janvier 2024, l'impôt mondial sur les multinationales est entré en vigueur dans l'Union européenne. Approuvé par 140 pays, il taxe les bénéfices des entreprises à hauteur de 15% minimum, quel que soit le lieu où elles déclarent leurs profits. L'impôt mondial sur les multinationales a été longtemps défendu par l'Union européenne pour assurer des règles de jeu équitables. Mais, en réalité, le vrai objectif de l'Union européenne était de limiter l'hégémonie des entreprises américaines, déjà largement dominantes, et qui sont les plus impactées par ce nouvel impôt. L'autre enjeu est d'affaiblir géopolitiquement des pays qui misent sur de faibles taxations pour être attractifs. À présent, l'impôt minimal est le même partout. Les entreprises devront choisir le lieu de leurs quartiers généraux selon d'autres critères. Ceci peut aider l'Union européenne puisqu'elle présente un environnement attractif au-delà du critère purement fiscal. Un problème se pose pour autant. Les États-Unis et la Chine n'ont pas ratifié le traité, ce qui signifie que l'impôt n'est pas applicable sur leur territoire. Pour les détails techniques, on se référera au site Toute l'Europe qui indique « toute entreprise d'un pays signataire générant plus de 750 millions d'euros de recettes annuelles est concernée par cet impôt. Une société française dont les profits sont localisés dans un paradis fiscal pourrait ne pas payer d'impôt jusqu'au 1er janvier 2024. Elle est désormais imposée en France à hauteur de 15% de ses bénéfices. Une autre, taxée au taux de 9% dans un pays à faible fiscalité, doit aujourd'hui verser la différence à la France, soit 6% d'impôts supplémentaires. Pour l'Union européenne, on peut néanmoins avoir une sorte d'échec sur le plan géopolitique. En effet, l'Union n'a pas réussi à lutter contre le dumping fiscal seule et elle a dû attendre l'implication de l'OCDE et de l'administration Biden. Le gain pour l'Union européenne suite à la mise en place de cet impôt s'estime à 80 milliards d'euros et près de 14 milliards pour la France. Ce dossier a aussi été révélateur des tensions au sein de l'Union européenne. La Pologne et la Hongrie ont refusé de signer l'accord si les sanctions de l'Union à leur encontre pour non-respect des droits de l'homme ou autres n'étaient pas abaissées. Les deux pays ont eu gain de cause.
Au-delà de cet impôt mondial, nous allons ouvrir nos perspectives pour avoir un regard global sur les enjeux géopolitiques de la taxation des multinationales. Si les enjeux géopolitiques au sujet de la taxation de ces multinationales se multiplient, c'est en grande partie à cause de la complexification des chaînes de valeur, et puis aussi de nombreuses filiales, des groupes qui sont de plus en plus grands, et des montages fiscaux qui peuvent exister. En plus de la fiscalité, se trouve confrontée à de nouveaux enjeux contemporains. Taxer efficacement les émissions de carbone est un défi pas complètement relevé depuis 1997. Mais surtout, c'est la digitalisation qui bouscule la fiscalité internationale. La digitalisation de l'économie provoquée par la révolution numérique fait tout d'abord évoluer les rapports de force entre pays développés avec l'émergence d'entreprises, notamment américaines, en position de monopole. Le modèle économique des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft que nous connaissons, rebat les cartes. Ces entreprises n'ont plus besoin d'une présence physique sur un territoire pour y exercer leur activité. En conséquence, elles mènent une activité économique, y compris dans les pays développés, dont les bénéfices échappent très largement à l'imposition, malgré l'inventivité des administrations fiscales, pour trouver un moyen de les faire contribuer. Ces difficultés arrivent en même temps que les pays développés rencontrent des difficultés de financement de leurs services publics. Il y a alors un sentiment, peut-être dangereux, d'injustice des populations qui émergent. Puis enfin, il y a un grand enjeu de coopération, à l'image de la taxation internationale déjà abordée, mais aussi et surtout au sujet de l'évasion fiscale et des sanctions qui en découlent. On notera pour terminer que le travail est loin d'être fini et le G77, regroupant plus de 130 pays en développement, appelle déjà à une reprise des négociations sous l'égide d'un organisme indépendant à l'Organisation des Nations Unies, une demande historique des pays en développement.
Le système fiscal actuel semble dépassé pour s'occuper de l'industrie du numérique, même si nous avons discuté des efforts déjà réalisés. En effet, le système fiscal date principalement des années 1920, ce qui est évidemment trop vieux. En plus, l'influence grandissante des entreprises du secteur n'arrange rien. Elles peuvent faire valoir leurs intérêts auprès des institutions afin de ne pas faire évoluer un système qui leur est profitable. Depuis 2018, la Commission européenne tend à se positionner en leader pour lutter contre un sentiment d'injustice, mais les pays les plus libéraux sont réticents à imposer une taxe sur le chiffre d'affaires. La Commission a donc envisagé de taxer sur les services proposés par les géants du numérique. Ainsi, l'industrie du numérique pousse les États à des initiatives nationales, là où des réponses communes sont les plus efficaces. En 2019, la France a imposé son propre modèle sur son territoire, ce qui a ouvert un débat en cas de perte d'attractivité du pays. En fait, le principal problème est juridique. Comment s'adapter à des activités immatérielles? Comment taxer quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas physiquement présent sur son territoire? Le numérique rabat les cartes de la fiscalité, mais également du droit. L'enjeu est donc celui de la création d'une gouvernance mondiale en matière de fiscalité. Mais comme souvent, il va falloir attendre l'accord des Américains, sans qui ce projet semble impossible. Si l'administration Biden a fait des pas en avant à ce sujet, un retour éventuel de Donald Trump pourrait nous faire retomber à la case départ. On le sait déjà, Make America Great Again. C'est aussi diviser le monde derrière un leader insolent.
Vous retrouvez, si vous le souhaitez, deux articles supplémentaires au sujet de ces notions économiques, un d'alternative économique, un de géoconfluence, le média de l'École Normale Supérieure de Lyon. Si jamais vous voulez aller plus loin, on vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. Manon, je te laisse le mot de la fin.
Eh ben, restez connectés et prenez soin de vous.